Si tout va bien et sans transition aucune, on est au téléphone avec Lise Bénel, professeure d'histoire-géographie au collège Voltaire d'Ucel. Lise, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Lise, merci à vous de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. J'ai plusieurs questions à vous poser. Pour commencer, peut-être une question personnelle, à savoir comment se passe votre confinement, comment vous le vivez, comment vous vous êtes organisé, comment ça se passe à Ucel?
Alors, écoutez, ça se passe plutôt bien parce qu'on est à la campagne et je bénéficie d'un jardin, ce qui est vraiment un avantage. Voilà, mais je suis à la maison avec mes deux filles. Mon mari continue de travailler. Et puis nous accueillons une petite cousine dont les parents travaillent aussi la semaine. Et donc, j'organise mon temps beaucoup entre le travail, le mien, et le travail, les devoirs de mes enfants.
C'est indiscret de vous demander quel est le travail de votre mari et le travail des parents de la petite cousine?
Eh bien, les deux, mon mari et donc son cousin et sont agriculteurs, donc ils s'occupent toujours de leurs vaches et de leurs fermes. Et la maman de cette jeune fille est commerçante. Elle tient un commerce alimentaire, donc il faut qu'elle soit disponible pour ses clients.
Je vous ai appelé principalement pour revenir sur cette fameuse continuité pédagogique mise en place par le gouvernement pour cette période de confinement. Comment vous vivez cette continuité pédagogique?
Voilà, c'est on attaque la troisième semaine, alors on commence à être un petit peu plus rodé. Alors on a au Collège Voltaire eu beaucoup de chance parce que nous avions, comme tous les collèges, un ENT, un environnement numérique de travail, et nous avions aussi un site internet qui s'appelle Pearl Trees, qui était utilisé beaucoup par les professeurs de technologie au collège. Et donc tous les élèves du Collège Voltaire avaient déjà un compte et savaient déjà l'utiliser puisque les professeurs de technologie leur avaient appris. Donc c'est nous les professeurs qui, de la première semaine, on s'est formé rapidement à ce site internet, et au Collège Voltaire on n'utilise plus que ce site-là. Ça fonctionne bien, les professeurs déposent leurs cours, le contenu de leurs cours, et les élèves peuvent récupérer les cours et ils peuvent aussi envoyer les exercices qu'ils font sur ce site. Donc ça fonctionne plutôt bien.
Comment vous savez quel élève a réalisé quel exercice, quel contact vous avez avec vos élèves?
Alors, sur ce site, on peut communiquer comme un chat, en fait. Ils nous laissent des petits messages et on leur répond. Et puis, nous avons chaque professeur principal a téléphoné dans les familles, en fait, hein. Et chaque professeur principal téléphone à ses élèves. Alors, les grands, ceux de troisième, on a même fini par échanger nos numéros de téléphone, hein. Donc, voilà, on s'envoie des messages. Et pour les petits, eh bien, on passe beaucoup par le téléphone et c'est quand même très important.
Vous savez si tous vos élèves ont accès à Internet?
Oui, la première semaine, on a recensé pour chaque classe qui avait accès à Internet ou qui ne l'avait pas ou qui n'avait pas accès à Internet. Et nous avons quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès. Alors au Collège Voltaire, là, on en est à une vingtaine d'élèves. Là, il y a encore plusieurs moyens. Le collège fait des envois papier. Mais bon, jusqu'à, enfin là, les envois papier, c'est quand même aléatoire avec les facteurs qui font des petites tournées. Et puis voilà, on essaie de se débrouiller par texto. J'ai même fini par envoyer des cours par texto.
Envoyer
Voilà.
des cours par texto, il faut improviser et inventer. Alors, Jean-Michel Blanquer compte sur les parents et les personnes qui encadrent les enfants à domicile pour assurer cette continuité pédagogique. Le problème, c'est que de mon point de vue, on ne s'improvise pas professeur du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous pensez de la situation dans laquelle sont mises ces personnes et quels conseils vous leur donneriez?
Oui, alors déjà, après avoir téléphoné quand même à beaucoup de parents, il y a quand même beaucoup de parents qui travaillent, hein. Nous, on est dans des territoires ruraux où les parents où les mamans souvent sont infirmières, aides-soignantes, aides à la personne, aides à domicile. Donc on a quand même beaucoup de parents qui travaillent et donc les enfants, eh ben, ils sont quand même soumis à rude épreuve, soit parce qu'il faut qu'ils soient totalement autonomes, soit parce que ils sont bah, dans des placés chez des gens qui sont des membres de la famille, des grands-parents parfois. Et puis voilà. Et puis quand les parents sont à la maison, il faut qu'en plus ils télétravaillent. Donc c'est vraiment très compliqué. Ce qu'on essaie de leur dire aux parents, c'est de pas s'angoisser. On fait ce qu'on peut. Et puis quand on se retrouvera avec les enfants, et ben on remettra les niveaux, on mettra les cours à niveau, on remettra les cahiers à flot. Parce que l'important c'est qu'ils travaillent tous les jours un petit peu, même si c'est difficile. Ça, c'est le plus important. Et puis, qu'ils fassent au mieux. Et s'ils n'arrivent pas à renvoyer les travaux, eh ben, ils n'arrivent pas à renvoyer les travaux. L'important, c'est qu'ils essayent de le faire. Les parents, il faut qu'ils soient bienveillants avec leurs enfants parce que ce n'est pas évident. Il ne faut pas s'agacer, même si, bien entendu, ce n'est pas si facile que ça. Il faut essayer aussi d'être bienveillant aussi avec soi-même, hein, parce que ce n'est pas la peine de se culpabiliser en disant qu'on n'a pas réussi. Effectivement, on n'est pas tous enseignants. Et c'est pas un métier facile. Voilà, on apprend nous la patience, on apprend le dialogue, on apprend aussi à savoir s'arrêter. Et quand ça veut pas fonctionner, ça veut pas fonctionner. Ben faut passer à autre chose, faire autre chose. La continuité pédagogique, ça peut être aussi de regarder un film, ça peut être aussi de regarder un reportage, ça peut être aussi de lire un livre ensemble pour les plus petits, d'écouter de la musique. Voilà, la continuité pédagogique, c'est pas forcément des problèmes de maths et de physique chimie.
Quand on écoute Jean-Michel Blanquer, on a l'impression que la mise en place de cette continuité pédagogique est relativement simple, qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que ça fonctionne. Moi, je me pose la question de l'égalité des élèves face à cette fameuse continuité pédagogique. Alors, on vous l'avait expliqué, tous vos élèves n'ont pas accès à Internet. Tous les parents et toutes les personnes qui encadrent ces élèves ne peuvent pas le faire de la même manière. Tout le monde ne sait pas gérer au mieux l'apprentissage d'un savoir avec un enfant. Est-ce qu'on se dirige pas vers une année blanche, finalement, pour vos élèves ?
Une année blanche, je pense pas, parce que on a quand même fait le premier et le deuxième trimestre, qui sont les trimestres les plus longs en termes de chronologie de l'année. Après, pour nous enseignants, ce qui va beaucoup jouer, c'est quand est-ce qu'on va reprendre les cours. Parce que si on les reprend le 4 mai, il nous restera encore plus d'un mois et demi hein, pour retravailler avec mes élèves, les remettre dans le flow, les relancer hein, pour une année, pour l'année prochaine, en fait. Hein. Si on reprend le 15 mai, ou même le 20 mai, ou même début juin, là, ça va être plus compliqué. Importante et qu'elle ne doit pas passer que par des espaces numériques de travail, mais aussi par des coups de téléphone réguliers, par d'autres biais, comme voilà, le téléphone portable, parce que voilà, il est impératif qu'on garde le lien. L'école, c'est pas simplement juste des savoirs, c'est une relation avec les élèves.
Alors, par année blanche, j'entendais par exemple des passages automatiques en classe supérieure, où on a entendu là ce matin Jean-Michel Blanquer expliquer que le baccalauréat, par exemple, pourrait être passé uniquement sur le principe du contrôle continu. J'ai pas bien entendu ce qu'il a dit à propos du brevet des collèges. C'était plutôt ce genre de question que je me posais, à savoir...
Alors, d'un point de vue des examens et du passage dans la classe suivante, donc là... En fait, on valide une année sur des compétences. Donc maintenant, le premier et le deuxième trimestre sont faits et les enseignants ont quand même validé un certain nombre de compétences. Le contrôle continu permet d'avoir une idée de la valeur du travail de l'élève. Après, là encore, moi je vous dirais ça dépendra beaucoup de la date à laquelle nous reprenons. Si on reprend début mai, pour le bac, on a quand même fait les deux tiers de l'année et les élèves ont quand même des savoirs. Alors, ce sera peut-être des sujets portant volontairement sur le début du programme plutôt que sur la fin du programme. Mais c'est pas encore trop tard. Ça va vraiment dépendre de quand nous serons déconfinés et de comment nous allons être déconfinés. Pour ce qui concerne les brevets, la situation est un peu la même. Si on reprend début mai, on aura le temps de faire passer des oraux, on aura le temps de faire passer des épreuves écrites, sachant que le contrôle continu, en fait, il est quasiment sur le premier et le deuxième trimestre. Au troisième trimestre, que ce soit pour le bac ou pour le brevet, les élèves commencent très tôt les examens.
Alors j'ai une question un peu compliquée peut-être à vous poser. Vous avez expliqué qu'il allait falloir rattraper, en tout cas plus encadrer certains élèves qui auraient pris du retard, je mets des guillemets, sur le programme ou sur l'enseignement prévu. Est-ce que vous avez déjà du côté du rectorat des indications qui vous viennent sur une organisation un peu particulière à la sortie de ce confinement pour peut-être, pourquoi pas, mettre en place des classes dédiées à ces élèves ?
Absolument pas. Pour l'instant, nous n'avons pas entendu parler de ça. J'ai entendu par les informations que notre ministre souhaitait généraliser peut-être une reprise des cours avec pour les élèves volontaires et les professeurs volontaires fin août. Ça se fait déjà dans plusieurs établissements. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ces élèves-là, de toute façon, nous, on les connaît, on les a ciblés depuis le début de l'année. On sait qu'ils seront, ce sera difficile pour eux de raccrocher les wagons et ils ne seront pas laissés à la dérive parce qu'on sait que nous, équipe pédagogique, on sera là pour eux.
Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de travail en perspective et que vous avez d'ailleurs en ce moment même beaucoup de travail pour garder le lien avec ses élèves. Et en parlant du travail des professeurs en cette période de confinement, j'ai envie de revenir sur cette petite phrase de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui a expliqué que, en gros, je résume, que vu que les enseignants ne travaillaient pas en ce moment, on pouvait peut-être les envoyer aller récolter des fraises, les mobiliser pour qu'ils soutiennent les agriculteurs et les agricultrices. Comment vous avez reçu cette petite phrase de la porte-parole du gouvernement ?
Bien, comme toutes les phrases que l'on reçoit, qui sont négatives sur la vision de notre enseignement, la vision de notre métier, on n'a jamais attendu à l'éducation nationale la considération des ministres. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. On préfère la considération de nos élèves à la considération des ministres. On est habitué quand même à ce que dans la société, on soit parfois dénigré, moqué. Quand ça vient d'un ministre, c'est pas très agréable, mais de toute façon, effectivement, la considération des ministres n'est pas toujours présente, et finalement, on travaille sans cette considération.
Eh bien oui, vous allez continuer à travailler sans cette considération et beaucoup de travail en perspective à la sortie du confinement pour le personnel enseignant. Merci à vous, Lise Bénel. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire géographie au Collège Voltaire du Sel. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
Je vous remercie.